Bien, nous reprenons maintenant pour la seconde partie de ce séminaire. Avant d'aborder le thème qui doit nous occuper pendant cette heure et demie, et de manière à satisfaire aux exigences de démocratie participative que l'esprit du siècle nous impose et que le plaisir d'avoir une assemblée aussi savante nous rend agréable, voilà, merci Armel. Ma phrase était devenue nettement trop longue. Je voudrais savoir s'il y a dans la salle des désirs d'intervention sur ce dont on a parlé pendant la première heure et demie. Des désirs d'avenir, en quelque sorte.
S'il faut absolument, je vais parler au professeur Pimentel. Il y avait un tout petit moment où j'ai l'impression que vous avez parlé d'objectifs où le gouvernement définirait. Il s'agit de savoir jusqu'où il va aller. Parce que. Alors, j'ai pensé au gouvernement idéologique, au gouvernement du type soviétique où il y a un objectif et où tout est subordonné à cet objectif. Or, d'une manière générale, je n'ai pas l'impression que tous les auteurs considéraient qu'il fallait d'avant tout avoir un objectif. Ils étaient plutôt là face à des problèmes, alors on les traitait, mais l'idée qu'il y avait quelque chose à construire et qu'on savait où on allait et que tout allait tendre vers cet objectif ne semblait pas présente. Mais vous avez parlé de ça quand même, j'ai l'impression, pendant peut-être une minute.
Oui, en fait, c'était simple. Je crois que c'est de mémoire, c'était Carnot, me semble-t-il, qui utilisait cette notion pour caractériser le gouvernement. Alors après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est applicable jusqu'où, c'est une autre question. Il me semble que c'est d'ailleurs le type de questions qui sont susceptibles de relever du... Je n'ai pas insisté parce qu'il me semble que c'est le type de questions qui sont susceptibles de relever de la deuxième session. Hein. Mais c'était simplement, je reprenais les termes qu'il utilisait et pour remarquer qu'au fond, ce mode d'appréhension de la notion de gouvernement, elle était très peu utilisée, je ne l'avais pas trouvé ailleurs. C'était juste ce que je voulais dire à ce sujet.
Tiens. Oui, il me semble qu'il y a une idée de gouvernement dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. On a retenu surtout de ce livre l'idée que le législateur, c'est le peuple, que toute loi qui n'a pas été ratifiée par le peuple est nulle. Mais il parle aussi du gouvernement, il distingue, je crois, trois sortes de gouvernements, le gouvernement démocratique, le gouvernement aristocratique et le gouvernement monarchique. Et il indique que le gouvernement démocratique, c'est-à-dire le régime où le législateur serait en même temps gouvernement, est impossible. Et au fond... Aussi, bien qu'il ne mette pas ses idées en avant, il suppose toujours que le gouvernement a une certaine faculté d'initiative, a un rôle d'impulsion. Par exemple, il dit quelque part qu'il est contre le référendum d'initiative populaire. C'est-à-dire que si toutes les lois doivent être ratifiées par le peuple, c'est toujours le gouvernement qui doit en prendre l'initiative. Donc je voulais simplement souligner qu'il y a chez lui l'idée d'un gouvernement qui dispose quand même d'un rôle qui n'est pas purement d'exécution.
Deux remarques sur... la première remarque, c'est ce qui m'a frappé dans tout le débat, c'est quand même, on a toujours glissé, enfin, on a toujours fait comme si le gouvernement et le pouvoir exécutif allaient ensemble. Ça me rappelle un colloque qui a eu lieu à Cergy, qui va être publié dans la revue française d'histoire des idées politiques, le thème était l'exécution dans l'histoire prussienne française, et en fait, on a tout au long du colloque parlé au lieu de l'exécution du pouvoir exécutif. Et j'ai l'impression que dans ce débat, finalement, on est toujours en train de glisser du gouvernement au pouvoir exécutif. Donc c'est un constat, mais qui débouche sur une question. Est-ce qu'on peut penser, ça va un petit peut-être la discussion qui va venir, mais est-ce qu'on peut penser les deux choses de manière un peu différente? Est-ce qu'il n'y a pas une manière d'articuler les deux tout en les distinguant, puisque ce sont quand même deux mots différents, ou est-ce que c'est tout à fait, ce sont tout à fait deux expressions synonymes? Et je pense que dans le débat, on pourrait peut-être gagner, enfin, ça sera à mon avis un des objectifs de nos réflexions sur ces questions, c'est d'essayer de distinguer le plus possible des concepts. Peut-on distinguer, c'est une autre question. Et l'autre remarque, c'est un peu méthodologique, elle m'est venue en écoutant la remarque qu'a fait Rana Levy quand il a dit à propos de Saint-Just, vous avez dit, si j'ai bien compris, il y a une distorsion, une discordance entre ce qu'il dit et ce qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a, il me semble que dans la théorie du gouvernement révolutionnaire, Et je me demande si, quand on analyse ces textes, donc des textes quand même très, pas datés, mais qui sont quand même dans un contexte très particulier, révolutionnaire, Necker, c'est quand même, qu'on veuille ou non, un perdant de l'histoire, Saint-Just, bon, il écrit ça quand même dans une période extrêmement troublée, est-ce qu'on peut faire comme si, et j'ai eu l'impression en vous écoutant, qu'on pouvait faire comme si finalement le contexte était relativement, disons, secondaire, et qu'il n'influait pas sur le sens même des expressions, et moi je plaiderais plutôt en faveur d'une thèse qui consisterait peut-être à mieux ou à plus insister sur les circonstances de la publication de ces écrits et pas faire comme si c'était des textes, alors que j'aime bien l'histoire des idées évidemment, mais comme si c'était des textes qui donnaient une idée intemporelle de la notion de gouvernement, alors qu'il y a évidemment des enjeux polémiques, on sait, mais je pense que vous pourrez notamment sur la théorie du gouvernement révolutionnaire, la question est de savoir si on peut comme ça... réutiliser, bon, l'idée quand même c'est que évidemment c'est une notion qui est liée aux circonstances exceptionnelles et qu'il y a différentes théories du gouvernement selon les périodes et je me demande s'il n'y aurait pas un travail à faire un peu sur ces sur une sorte de modélisation en fonction des circonstances. Donc j'ai eu un peu l'impression, à tort peut-être, qu'il y avait une sorte d'essence du gouvernement, de notion du gouvernement, alors que il me semble que ce sont des textes quand même très très, très chargés d'histoire politique. Il s'agirait peut-être d'articuler davantage l'histoire constitutionnelle, des idées constitutionnelles à l'histoire politique. Cette remarque de méthode est peut-être d'abord extrêmement naïve et peut-être fausse. Voilà. Et la deuxième remarque.
Qui carcasse ça ?
Oui, ce que je voulais dire, on va prolonger un petit peu ce que vient de dire Olivier. J'ai écouté la discussion avec beaucoup d'intérêt, avec en même temps un petit sentiment de malaise en me demandant si il n'y avait pas une forme d'anachronisme dans... la conception implicite que l'on a du pouvoir. En d'autres termes, le pouvoir exécutif existe-t-il vraiment avant, disons, le consulat ? Si je pose la question, c'est en termes de substance et d'effectivité. Ce que je veux dire par là, c'est que, selon moi, enfin, en tout cas, je m'interroge, sous l'Ancien Régime, comme pendant les premières années de la Révolution et jusqu'au consulat, ce que l'on appelle le pouvoir, en réalité, c'est essentiellement une somme de décisions individuelles, beaucoup plus que le pouvoir tel que nous le concevons aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en application de normes générales et impersonnelles à des cas individuels. En d'autres termes, je veux dire ça sans attacher trop d'importance aux quantités, mais quand même, à l'apogée de la monarchie absolue, au tournant du XVIIIe siècle, la France comptait 50 000 fonctionnaires. Ramené à la démographie d'aujourd'hui, ça veut dire 150 000. C'est peu pour une monarchie absolue. Les décisions qui étaient prises par le pouvoir souverain étaient des décisions qui consistaient essentiellement hors le champ de la guerre et des relations internationales. À quoi ? À délivrer des lettres de cachet, à faire payer tel impôt à telle personne. Bien sûr, il y avait des normes générales et impersonnelles, mais elles étaient extraordinairement peu nombreuses. Sous la Révolution, le contenu de la décision a changé, ou plus exactement les conséquences, puisqu'on est passé de la lettre de cachet au décret d'accusation, ou à la proclamation comme suspect. Mais est-ce que substantiellement, ça a véritablement changé ? Je n'en suis pas du tout convaincu. Je pense que c'est plutôt à partir du consulat que la multiplication de normes supposant un pouvoir exécutif destiné à les mettre en œuvre apparaît véritablement dans une acception moderne que nous avons, me semble-t-il, toujours implicitement en tête, mais que ce type d'exercice, enfin, la mesure de l'effectivité et une fois encore de la substance de la nature des décisions prises par le pouvoir n'existait pas véritablement dans la période dont on parlait durant la première session. Beaucoup en avaient le pressentiment, beaucoup en avaient le souhait. Correspondait-il à une réalité à l'époque ? Je vous fais part de mes doutes.
Merci beaucoup.
Bien, moi je pense que nous pouvons très facilement, au regard de la transition qui vient d'être faite entre l'historique et le conceptuel par les différents intervenants, nous poser des questions, non pas sur un nouveau thème, puisqu'il s'agit toujours du gouvernement, mais en changeant le registre, en changeant l'angle par lequel nous escomptons aborder cette idée du gouvernement et son rôle et son statut en droit politique. Alors, nous avons appelé cette seconde partie théorique. Au fond, il faut quand même insister sur la porosité ici, Olivier, les apparaître de l'historique et du théorique. Et j'ajouterai la porosité des cloisons entre les deux séries de textes. S'il y a des envies ou des appétits de commenter des choses qui ressortissaient à la première partie, il ne faut surtout pas s'en priver. Cette diversité de textes, et spécialement tout de même ceux de la seconde partie, reflète la diversité des contextes dans lesquels cette idée de gouvernement se rencontre. On se rend compte en lisant les différents textes de la seconde partie combien le concept de gouvernement touche à peu près à tous les autres, ou presque, en droit politique. Il y touche, certes, mais il ne s'y insère pas de manière harmonieuse. Dans le concert d'un système accompli, comme disaient les philosophes spéculatifs allemands de la science constitutionnelle, que viendrait faire le gouvernement ? Ben, on ne sait pas très bien. L'idée de gouvernement brouille les cartes. Ça, on l'a déjà un petit peu vu tout à l'heure. La confrontation avec le gouvernement, bien pour le droit, c'est la contre-épreuve du réel. C'est le réveil un peu désagréable du devoir-être qui constate qu'il n'est pas seul et que son commerce avec l'être n'est pas pour lui totalement facultatif. Alors, sans vouloir réduire excessivement votre liberté de commentaire, je serais tenté de faire apparaître, simplement pour lancer la discussion, quelques problèmes qui, me semble-t-il, gravitent autour de deux questions très importantes, très prégnantes dans nos lectures. Premièrement, les rapports entre le gouvernement et le droit. La doctrine constitutionnaliste nous enseigne qu'on ne doit gouverner que conformément au droit. Mais qu'est-ce que ça signifie au juste ? N'y a-t-il pas un décalage, une hétérogénéité entre le gouvernement d'une part et la mise en œuvre du droit ? Et quand je dis la mise en œuvre du droit, les textes qui étaient donnés à notre commentaire nous en montrent plusieurs formes de la légalité. C'est de manière très forte la loi. On en a beaucoup parlé dans le premier séminaire, mais on la rencontre encore dans le second. Nous avons tout de même, et spécialement en France, une appréhension de cette idée de gouvernement extrêmement dominée, extrêmement surdéterminée, surplombée par la question de la loi, de son exécution, de sa mise en œuvre. Et c'est pas un hasard si Olivier a pu à juste titre dénoncer ou regretter un certain élément de confusion entre gouvernement et pouvoir exécutif. Certainement en France, c'est la manière, ce sont les termes dans lesquels la question a été posée. On a un peu bouclé le dispositif pour qu'on ne puisse plus penser le gouvernement qu'en termes de pouvoir exécutif. Donc c'est pas un hasard si ensuite nous, héritiers de cette tradition-là, on soit un peu enfermés dans cela. L'essentiel n'est-il pas ou ne faut-il pas faire des efforts pour les désolidariser ? Désolidariser le gouvernement du pouvoir exécutif, trouver des voies de sortie de la réflexion sur le gouvernement qui ne l'identifie pas au pouvoir exécutif, d'autant plus qu'en France, il y a une strate supplémentaire qui est qu'on identifie le pouvoir exécutif à l'administration. Deuxièmement, c'est la Constitution. Comment penser les rapports entre gouvernement et Constitution ? C'est bien sûr la question posée très tôt par Bolingbroke. Que veut dire, pour le citer, c'est une question que je vous pose, une constitution sur laquelle le gouvernement est fondé. La fonction de la constitution est-elle, entre autres choses, de fonder le gouvernement ? Et si elle le fait, en quoi le fait-elle ? Par quel dispositif ? Par quelle articulation entre le légal et le politique, le juridique et le politique, la constitution est-elle la fondation du gouvernement ? Êtes-vous d'accord avec la double définition du gouvernement et de la constitution que dans ce texte extraordinaire, il faut bien le reconnaître, en quelques pages célèbres et à juste titre, nous propose Bolingbroke. Si on remonte dans le temps, si on avance dans le temps, on repère l'extrême Martin Loughlin qui nous rappelle que la définition constitutionnelle du pouvoir exécutif, avec évidemment l'arrière-plan américain en l'esprit, peine à parvenir à une énumération même partielle. Au fond, avec à peu près une formule constitutionnelle comparable pour le pouvoir législatif dans l'article 1 et pour le pouvoir exécutif dans l'article 2 de la Constitution, c'est-à-dire une clause générale de compétence et puis ensuite une énumération plus spécialisée, on n'aboutit pas du tout au même résultat dans la pratique constitutionnelle américaine. On arrive à peu près à avoir une constitution de pouvoirs législatifs énumérés. On n'y parviendra à peu près jamais pour le pouvoir exécutif, et les discussions et les conflits très lourds contemporains aux États-Unis sur le périmètre de l'exécutif, ou l'absence de périmètre, si on lit ce qu'un intervenant à l'Institut Villet, il y a quelques mois, avait appelé les pro-exécutifs conservatifs, les conservateurs pro-exécutifs, il n'y a pas de, véritablement de limite au pouvoir exécutif. Les rapports gouvernement-constitution ou exécutif-constitution sont problématiques. On peut en généraliser le propos. Ce qu'on lit dans les textes de Barthélemy, enfin ne lit-on pas, devrais-je dire, dans les textes de Barthélemy et d'Orioux, une problématique très forte qui est celle du rapport entre gouvernement et état de droit. Peut-on réconcilier l'exercice concret du gouvernement et l'état de droit? Que faire quand la loi est tout simplement inapplicable? Ça a été la question soulevée par Barthélemy, c'est la question soulevée par Orioux dans cette note brillante sous l'arrêt Ariès. C'est aussi de manière très frappante la question qui s'est posée avec la loi sur le CPE ou la loi sur les tests ADN. Dans tous les cas, on adopte une loi, on décide dans un cas d'en suspendre la promulgation, dans l'autre de ne pas l'appliquer. C'est même un ministre, c'est M. Éric Besson, qui dit ben, « cette loi, je ne vais pas l'appliquer ». C'est extrêmement frappant. Si ce n'est pas du gouvernement, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais par rapport à... l'aspiration à la concrétisation de l'état de droit, c'est évidemment un problème. Alors, second ordre de question que je dois soulever plus brièvement, il y a dans tous ces textes, me semble-t-il, une question qui est posée, qui est celle du rapport du gouvernement aux valeurs, et tout particulièrement aux valeurs morales. Pour le dire en termes espérés plaisants, le diable fait son apparition explicitement dans le texte de Bolingbroke. Le diable est présent sous la forme du pire gouvernant qu'on puisse penser, celui qui fait toujours le mal politique. Apparition assez logique au fond, puisque Bolingbroke se pose la question du gouvernement en termes moraux, le bon et le mauvais gouvernement. On pose toujours au meilleur gouvernement, mais là on a la question tout simplement pas du meilleur, mais du bon. Est-ce que c'est une question actuelle? Continuons-nous à penser le gouvernement en termes de bien et de mal? Est-ce que nous avons des solutions pour appréhender ce que nous jugeons mal en matière gouvernementale quand ça n'est pas la rébellion ou différentes formes de la désobéissance? Le diable chez Bolingbroke, ce n'est peut-être pas symétriquement le bon Dieu, au regret peut-être de certains dans cette salle, qui fait son apparition dans d'autres textes, mais des figures de bien politico-moral qui s'y dessinent. Jelinek le fait apparaître assez explicitement en mettant l'accent sur le double impératif de responsabilité morale et de conviction morale des gouvernants. C'est très frappant. Est-ce que c'est une abdication du droit constitutionnel ou est-ce que c'est la reconnaissance de sa dimension morale? Et puis, je voudrais attirer votre attention sur le rapport que Martine Le Clin établit entre le gouvernement et le bien commun. Comment articuler cette problématique du gouvernement et cette problématique du bien commun? Est-ce indifférent de confier la poursuite du bien commun au gouvernement et ou de la confier au législateur ou à la loi? Voilà. Donc, je prends les interventions dans l'ordre où elles vont bien venir. Oui. Armel?
Non, c'est pas très très... ce sera rapide. Je ne sais pas comment vous enseignez... si vous faites un cours de première année ou quelque chose d'approchant, moi je considère que le pouvoir exécutif tel que le droit positif ou les textes constitutionnels encore en vigueur aujourd'hui en France ou ailleurs le reçoivent, c'est une convention de langage et c'est une des premières choses que je dis. Je m'emploie à obliger les étudiants à ne pas assimiler le Parlement au législatif. Et je leur dis, bon, pour le pouvoir exécutif on peut le faire parce que c'est faux, mais c'est une convention de langage. Donc, bien sûr qu'il faudrait penser conceptuellement, comme l'a souligné Olivier, une distinction entre gouvernement et pouvoir exécutif, mais au fond, notre problème, c'est plutôt la notion de gouvernement, comme organe, comme fonction, et l'ensemble de fonctions. Et le pouvoir exécutif, c'est vraiment quelque chose, pour moi, d'un peu dépassé, qui s'est perpétué dans les textes et dans le discours constitutionnel, même s'il n'a plus de substance, on ne peut plus avoir les mêmes débats que nos thermidoriens, par exemple. Et un deuxième élément qui m'amène sur les textes constitutionnels, je suis frappé par le fait que, après, à l'ère des grandes, enfin, de la grande diffusion des textes constitutionnels dans des termes modernes, c'est-à-dire après la chute de Napoléon, en gros, hein, la floraison des constitutions commence vraiment à se diffuser en Europe à partir de 1814, un petit peu avant pour certains pays. On a un classicisme de formulation On a peu de choses un peu originales. Là, il y a un phénomène de copier-coller par rapport à certaines constitutions écrites, notamment la Constitution française de 1791, et ensuite de la Charte, si l'on veut, avec l'influence de la Constitution belge, mais il y a aussi une proximité entre les deux. Et donc la façon d'instituer, ou de dire qu'on institue, ou de confirmer l'existence d'une institution existante, on va parler du pouvoir exécutif, on a très peu de formulations un peu originales. On ne parle pas toujours de gouvernement, il y a le roi, il y a les institutions en tant que telles, mais l'écriture constitutionnelle ne reflète pas grand-chose. Ça prouve que conceptuellement, on avait eu du mal à progresser et qu'on en est resté, si vous voyez les constitutions des régimes autocratiques qui viennent d'essayer de tenter la démocratie ces dernières décennies, eh bien on continue sur les mêmes formules. Et donc vous avez la constitution d'Irak ou les constitutions de pays d'Europe centrale orientale depuis les années 90 qui reprennent avec une belle unanimité. Tel pays a pu cette constitution reconnaître se fonde sur la séparation des pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire, et on n'en sort pas. Peut-être le seul cas un peu original, mais ça nous décale un peu par rapport à notre débat, je le mentionne juste en note de bas de page, de mon propos, c'est la constitution brésilienne de 1824, reprise par pour le Portugal en 1826, mais qui était en gros la même, qui distingue pour le roi le pouvoir exécutif et le pouvoir modérateur. Il y a une référence expresse donc à l'idée de Benjamin Constant, qui était d'autant plus... Alors ça n'a pas vraiment donné grand-chose, je vous rassure tout de suite, d'autant que le pouvoir neutre à la... Benjamin Constant n'a évidemment jamais été vraiment respecté par personne, en tout cas pas les monarques du XIXe siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un découpage en deux listes. Le roi exerce, un, le pouvoir exécutif et il fait ceci. Deux, il exerce le pouvoir modérateur et il fait cela. Alors, j'ai plus mes papiers sous les yeux là-dessus, mais j'étais frappé quand j'avais vu ça, qu'il y avait une contradiction totale. C'est-à-dire que la dissolution n'était pas du tout l'exercice d'un pouvoir modérateur, elle était mise dans le pouvoir exécutif. Enfin, en gros, tout ce que je pense que là, pour le coup, à part le titre, ils n'avaient pas bien lu, y compris Benjamin Constant, donc en gros, c'était un peu n'importe quoi, mais c'était une chose assez originale, dont on trouve là une strate originale dans un texte.
Totalement.
Oui, Ram. Je vous donne la parole, Carlos la reprendra.
Oui.
Il y aurait sûrement à faire une étude sémantique de l'évolution de ces deux notions. Alors, quand on prend la culture politique de l'Ancien Régime, le XVIIIe siècle, le mot gouvernement signifie régime. On ne parle pas de pouvoir exécutif. Le mot de pouvoir exécutif, comme le mot de veto, il est complètement étranger à la culture politique de l'Ancien Régime. Et donc, il s'en est, je dirais, avec la Révolution. Et c'est la Révolution qui commence qui est obligée de réfléchir d'abord au rôle qu'elle va donner au roi et à la manière dont elle va s'organiser. Dans un contexte effectivement troublé, mais c'est ça qui est intéressant, c'est comment dans un contexte complètement troublé, incertain, les gens essayent d'imaginer même des choses qui restent ambiguës, ou à introduire des convictions politiques, on l'a fait tout au long du XVIIIe siècle, on continue à le faire pendant la Révolution, des doctrines qui n'ont pas été mises à l'épreuve de l'expérience historique. Donc je crois qu'on reste dans le flottement du contexte.
Je vous en prie. Oui, moi je voulais essayer de rebondir sur l'opposition, enfin la façon dont tu poses la question qui me semble intéressante à propos de cette notion de gouvernement, entre un devoir-être qui est exécutif, en gros, c'est ce que devraient être nos organes gouvernementaux, et un fait qui, manifestement, dépasse la seule fonction exécutive. Je crois que c'est une... Je n'avais pas pensé à cette manière de poser la question, mais je crois que c'est tout à fait pertinent. Et alors après, la question de savoir jusqu'où on peut parvenir à penser une réalité gouvernementale qui n'est pas forcément entièrement... susceptible d'être capté par le devoir-être de la Constitution. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je raconte, mais je vais essayer de l'être un petit peu plus. En tout cas, déjà, pour ce qui est du cadre conceptuel, c'est peut-être le devoir-être de nos organes gouvernementaux, mais il n'est pas cohérent. Je veux dire par là que la division des pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires, c'est quelque chose qui ne tient pas la route et qui ne tient pas la route dès Montesquieu. Ça tient la route avant, lorsqu'on est dans une dualité législatif-exécutif. C'est les Anglais qui font ça au XVIIe siècle. Il y a celui qui fait la loi, il y a celui qui l'applique, et celui qui l'applique, il juge et en même temps il a des fonctions gouvernantes, et s'il est exécutif, si le roi est décrit comme exécutif, c'est parce qu'il est censé présider à l'ensemble de ses cours de justice. Ça, c'est cohérent parce qu'on dit, pour le législateur est tout puissant pour l'avenir, il est totalement impuissant pour le passé, il ne peut pas modifier la règle du jeu, et surtout pas au moment où il juge. Ça tient. Après, Montesquieu arrive. Et il nous dit, non, mais je vais découper avec trois pouvoirs et pas deux, et pourquoi est-ce que je veux découper avec trois pouvoirs? Il ne le dit pas, mais en fait, la véritable raison, c'est qu'il veut faire une place au magistrat français. Et le magistrat français, il ne peut pas le décrire comme exécutif, donc il va découper un troisième pouvoir, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à avoir de gros problèmes, parce que ça ne tient pas bien. Parce que notamment, entre autres choses, à partir du moment où on aborde les choses comme ça, on a du mal, comme tu le disais toi-même, à dire ce qu'il y a dans l'exécutif, parce que l'exécutif, c'est ce qui reste quand on a enlevé le pouvoir de faire la loi et le pouvoir de juger. Et cette conception résiduelle, on la trouve chez Jefferson, par exemple, elle peut être soit résiduelle au sens habituel, c'est-à-dire très minime, soit, parce qu'elle est indéterminée, au contraire, être une réserve de pouvoir quasi indéfinie, et donc on navigue à vue. Et puis, peut-être aussi, il y a une incohérence conceptuelle supplémentaire. À partir du moment où on ne raisonne plus en termes de souveraineté législative, ce qui était le point de départ pour la séparation des pouvoirs, mais où il y a un pouvoir constituant. S'il y a un pouvoir constituant qui se distingue d'un pouvoir législatif ordinaire, alors ce devoir être constitutionnel de l'organe gouvernemental, qui serait d'exécuter, n'a plus de sens, parce qu'il exécute quoi? Il exécute la loi très secondairement, mais il va appliquer la Constitution en usant ses pouvoirs, mais ni plus ni moins que le législateur exécute la Constitution lorsqu'il applique lui-même son pouvoir législatif. Donc de toute façon, il me semble qu'on est dans un cadre où le devoir-être ne colle pas, de toute manière, il n'est pas cohérent. Alors après, il y a la dimension, enfin je ne voudrais pas être trop long, il y a la dimension, comment mesurer ce qui se passe et qui vient bien au-delà de notre instrument pour le décrire, et peut-être, alors, il y a ce que les Anglais appelaient l'influence. Au fond, ça rencontre de beaucoup du poids de nos organes gouvernementaux, la force de l'influence qu'ils peuvent avoir, sur l'exercice de pouvoir tel que faire la loi. Normalement, le gouvernement n'est pas censé vraiment faire la loi seul. Bon. Et là-dedans, parmi ces instruments d'influence, alors là, on est en deçà du droit, on décrit du politique, mais quand même, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que les moyens de pression que sont la responsabilité gouvernementale d'un côté et le pouvoir de dissoudre de l'autre, par exemple, sont quand même extrêmement importants, ne sont pas réductibles à soit du législatif, soit de l'exécutif, soit du judiciaire. Ça rentre pas dans le schéma, alors que c'est quand même des moyens d'influencer extrêmement forts et qui vont aussi beaucoup contribuer à faire que le gouvernement, dans la pratique, lorsqu'il rédige un projet de loi, il n'est pas sûr qu'il va être adopté tel quel, évidemment, mais enfin, il va avoir un poids dans la délibération qui va bien au-delà du simple fait d'appliquer la loi. Alors après, du coup, la question de savoir, est-ce qu'on peut essayer de décrire ça en termes de juridiciser la manière dont on comprend cette influence et ce pouvoir. Et là, je me dis, moi, je n'ai pas beaucoup d'idées là-dessus, mais je crois que tu t'avais énoncé une idée, on avait discuté il y a peut-être 2-3 ans, je ne sais plus, tu disais, au fond, maintenant, ce qui se passe avec les gouvernements, c'est un petit peu ce que disait la doctrine juridique médiévale sur l'Angleterre, à savoir que le roi, enfin, en l'occurrence le Premier ministre, mais le gouvernement, rédige la loi et elle est adoptée avec le consentement des chambres. Et au fond, on serait peut-être arrivé objectivement à cette situation-là. Ce serait peut-être une façon de décrire ce que sont en effet, de manière effective, les pouvoirs du gouvernement dans le découpage classique. Bon, c'est peut-être aller un peu loin quand même, parce qu'il y a quand même un pouvoir d'amendement qui est fort, qui existe malgré tout. Alors je me demande, mais c'est vraiment, je ne suis pas du tout sûr, je me demande si on ne pourrait pas essayer de décrire ça en termes d'un pouvoir, le gouvernement serait un législateur présumé. C'est-à-dire qu'il y aurait une présomption que ce qu'il écrit comme projet de loi va devenir la loi, mais cette présomption, elle est plus ou moins irréfragable selon les cas. Elle est presque, enfin, pas, oui, elle n'est pas très loin d'être irréfragable dans certains cas, comme le cas français en cas de concordance de majorité. Ça l'est beaucoup moins dans le cas des États-Unis. Mais voilà, est-ce que cette idée de présomption peut-être permettrait de comprendre dans des termes juridiques des phénomènes qui ne sont pas entièrement juridiques? Je ne sais pas.
Alors, je pourrais intervenir là-dessus. Je suis d'accord, dans une large mesure ça colle, mais le gouvernement ne fait pas que cela. Gouverner, c'est légiférer, mais il n'y a pas tout à fait que cela. Il y a réagir à des. Donc, c'est une des. Dans une conceptualisation renouvelée, moderne du gouvernement, il y aurait cette partie-là, et moi j'adhère totalement, je crois que c'est tout à fait ça, en tout cas dans le cadre du gouvernement parlementaire. Mais voilà, reste le plus difficile, c'est l'action immédiate, hein, ce qui justement se coule pas dans la forme d'un projet de loi, ou même de pouvoir réglementaire, on va dire, même pas dans des décisions individuelles qu'on peut individualiser dans des actes. Il y a beaucoup de décisions pour le coup, ensuite, sans parler de ce qui n'est pas juridique au sens propre. Regardez un agenda d'un ministre et voyez le temps qui passe à faire des choses qui sont cruciales pour le gouvernement et pour le président de la République en France et qui ne sont pas juridiquement. On ne peut pas les enfermer dans une petite catégorie. Et donc, voilà, c'est pas que ça, mais il y a ça, et ça, il est temps évidemment d'admettre qu'on en est venu à ce niveau-là de présomption.
Oui, avant une remarque sur la présentation de Denis, qui est très intéressante. Je me demande si dans ta présentation, tu introduis pas, mais tu réintroduis un élément qui avait été abordé au début de la discussion, c'est en fait la dualité sémantique du gouvernement. D'un côté, Armel a dit, il est d'ailleurs du mal à définir, alors le gouvernement dit c'est un organe et un ensemble de fonctions, ce qu'on peut effectivement admettre comme étant un sens assez précis à ce qu'est le gouvernement aujourd'hui, et toi tu interviens avec une autre notion, une autre signification à mon avis, qui est de dire est-ce qu'il y a un bon ou mauvais gouvernement, ça te introduit effectivement la notion du régime. Donc je pense qu'il y a la question effectivement qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on doit penser aujourd'hui cette question du gouvernement sous cette forme-là, c'est-à-dire réintroduire dans le droit constitutionnel la question du régime, qui était une question traditionnelle, disons, avec une classique au début du XXe siècle et qui a relativement disparu. Donc j'espère avoir bien compris ce que tu voulais faire en fait en posant cette question sur le bon et le mauvais gouvernement, mais ça mériterait évidemment d'être prolongé, mais ça me paraît intéressant. Mais il me semble qu'à ce moment-là, il y a quand même une difficulté, c'est qu'on a deux notions, puisque là on parle du concept, deux notions relativement différentes. Il faut en être conscient et donc le savoir. Et la deuxième remarque porte sur ce que vient de dire Carlos, que j'ai trouvé très intéressant, cette idée qu'il avait d'ailleurs développée dans un article sur laquelle Montesquieu, en fait, la grande question, et je pense qu'il a raison, son intuition est très juste, la grande question de Montesquieu, c'est effectivement la question du pouvoir judiciaire, et qui a été, de manière très surprenante, peu analysé, puisqu'on s'est arrêté sur cette formule que c'est un pouvoir qui est nul, etc. On a puissance nulle, alors qu'en fait, effectivement, la grande question, à mon avis, de Montesquieu, une des grandes questions, c'est évidemment protéger et renforcer l'indépendance des juges, étant donné le contexte français. Mais alors, là, la question que je voulais faire, enfin, la remarque que je voulais faire, c'est pas sur cette question des juges, c'est sur la question de la responsabilité. Ce que tu as dit sur la responsabilité me paraît intéressant, me paraît poser un problème global qui est de savoir comment nous, les juristes, on peut rendre compte de la réalité, alors entre guillemets, politique gouvernementale, à partir de nos catégories actuelles, c'est-à-dire fonction législative et fonction judiciaire, à partir du moment où on a quand même bâti toute sa théorie des fonctions à partir de l'acte juridique. Donc, c'est ça le fond de l'affaire sur cette trilogie des fonctions. Quand on voit Karim Albert, c'est lui qui donne les canons, eh bien, il dit qu'il faut réduire la fonction à l'acte. Et donc, on s'en sort très bien pour l'essentiel. Et celui qui a bien eu les limites, c'est Burdeau, Georges Burdeau, qui a, dans son article en 1945, démonté, à mon avis, à très juste titre, cette réduction, c'est une réduction, il faut le savoir, de la fonction à l'acte. Et donc, quand on est dans la responsabilité, ben, évidemment, c'est un cas classique où on ne peut pas, avec notre grille d'analyse des actes juridiques, expliquer ce que c'est que la mise en cause de la responsabilité par donc, des gouvernants, par le Parlement, parce que l'acte juridique, alors, c'est quoi? Alors, on peut dire que c'est la motion de censure. Alors, qu'est-ce que c'est que la motion de censure? Donc là, on a, à mon avis, des vraies difficultés, parce que la trilogie, fonctionnelle, hantée sur une trilogie des actes, à mon avis, est impuissante à, décrire l'ensemble de la réalité politique. Et il me semble que c'est l'intérêt du gouvernement, ou la fonction du gouvernement, c'est que c'est là où on voit le mieux, justement, cette discordance entre l'analyse à partir des actes juridiques et l'analyse de la réalité. On pourrait prendre l'autre exemple de la conduite des relations internationales. On s'en sort en disant finalement il y a les traités, mais les traités c'est un élément de la conduite des relations internationales. Et si on devait actualiser, moderniser aujourd'hui dans la réalité gouvernementale, il y a toute la question des rapports avec les médias. Comment est-ce qu'on peut nous, en tant que constitutionnalistes, rendre compte de cette activité très importante, qui prend un temps fou d'ailleurs chez les ministres, même trop, à partir des catégories de l'acte juridique. Donc là, je pense qu'il y a un défi, il me semble, à essayer de relever, c'est-à-dire d'essayer de rendre compte de la fonction gouvernante en s'extirpant, en quelque sorte, ou en dépassant, comment dire, le modèle, disons, classique, atomistique, qui est conduit à réduire la fonction à l'acte. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu important.
Donc, Carlos a rappelé la trilogie de Montesquieu et les raisons pour lesquelles elle a été établie dans le contexte haut magistrat, la pensée d'un haut magistrat bordelais. Évidemment, l'influence de cette tripartition a été énorme, puisque Montesquieu est l'auteur le plus cité dans le Fédéraliste, pratiquement, et les trois premiers articles, c'est-à-dire chapitres de la Constitution américaine, s'appellent la branche législative du gouvernement, la branche exécutive du gouvernement, la branche judiciaire du gouvernement. Enfin, cela dit, la pensée de Montesquieu était au départ influencée par celle de Locke, et si on veut s'interroger sur le contenu de la notion de pouvoir exécutif et de gouvernement, dans l'incertitude de concepts que vous reliez tout à l'heure, et qui, de flottement de concepts, employez votre terme, qui correspond à un flottement dans le langage aussi, on peut peut-être plus s'inspirer de Locke que de Montesquieu, en sens que, à côté de la fonction exécutive, c'est rappelé dans un des textes, Locke distingue la prérogative, le droit de dissolution. Il ne s'agit pas de se demander s'ils avaient varié le pouvoir exécutif ou non, ça n'en fait pas partie, c'est quelque chose d'autre, c'est un acte que détient la couronne en dehors de toute habilitation législative. Et puis, il y a la fonction fédérative. Il ne parle pas de la fonction judiciaire. Donc la fonction fédérative est en somme la troisième, conduite des relations internationales, le droit de la paix et de la guerre, est la troisième des fonctions de l'État. Et ça se pose de façon intéressante précisément dans les débuts de l'histoire américaine, parce que la fonction fédérative est divisé entre le président et le Sénat, et au départ, le président va essayer de faire activement avec le Sénat d'en faire un co-auteur de ces actes de la fonction fédérative. Or, c'est le Sénat qui ne va pas marcher. Et par la suite, eh bien, dès le tout début du XVIIIe siècle, un arrêt de la Cour suprême reconnaît au président la qualité de seul organe représentant les États-Unis dans la conduite des relations internationales. Le Sénat, évidemment, continue d'avoir son mot à dire, puisqu'il peut ne pas autoriser la ratification du traité, mais il n'agit pas comme pouvoir législatif. Si c'était le pouvoir législatif, ce devrait être le Congrès. Or, le Sénat agit ici comme au titre d'un pouvoir qui est un reliquat des origines confédérales de la fédération américaine, donc le système constitutionnel antérieur. Quant au contenu du pouvoir exécutif lui-même, eh bien, on peut dire que la Cour suprême n'a pas aidé non plus, en ce sens-là, on évoquait tout à l'heure le problème, à le définir de façon précise. Ces intermittences sont récurrentes, puisque tantôt, elle dit le président n'a de pouvoir que ceux qui lui sont explicitement attribués par la Constitution et par les lois. C'est par exemple le cas du célèbre arrêt sur les aciéries pendant la guerre de Corée, et à d'autres moments, le président a tous les pouvoirs qu'on veut, qui sont rendus nécessaires par les nécessités du moment, et c'est le cas sur les actes pris en vertu d'habilitation qui avaient été concédés au président Wilson et qu'on va considérer comme valables contre les Japonais, les citoyens japonais, en 1940. Donc c'est du n'importe quoi, si vous voulez. Mais il est certain qu'on va au-delà, bien au-delà, de la notion de branche exécutive du gouvernement. Il y a une notion de gouvernement autonome, mais qui n'est jamais définie. Je me souviens que Stéphane Rials, dans la préface de votre magnifique fondateur, magnifique thèse, citait une phrase de deux personnages d'un roman de Trollope, oui c'est ça, le Parlement, le gouvernement, la couronne plus exactement, peut évidemment faire ce qu'elle veut dans telle et telle manière, mais elle ne le peut que dans la mesure où le Parlement la laissera faire. Donc la frontière, elle n'existe pas. Ce sera toujours une question d'équilibre qui est fonction des circonstances.
Merci, Nicolas Casson.
Oui, je trouvais très intéressant ce que disait Carlos tout à l'heure, et ça m'a fait songer un autre type de référent. Je trouve toujours intéressant de comparer nos instruments et nos vocabulaires avec ceux d'autres branches du droit. Et au cas présent, je suis frappé par le fait que ce pouvoir exécutif, qui correspond si peu à une définition satisfaisante, a néanmoins contaminé l'ensemble du vocabulaire. Comme chacun sait, dans le droit des sociétés anglo-saxons, on parle d'un chief executive officer pour définir quelque chose qui ressemble beaucoup. Je me méfie toujours de ce que les comparaisons peuvent avoir d'abusif, mais qui ressemble quand même beaucoup à ce que nous entendons par la fonction gouvernementale. En d'autres termes, la fonction gouvernementale, que la fonction gouvernementale ne puisse pas se réduire à l'acte juridique, me paraît aujourd'hui une évidence difficile à contester. Que pour autant, elle se borne à l'exécution, personne ne songerait à le soutenir. Sans doute s'agit-il davantage d'une fonction opérationnelle, et c'est pour ça que je faisais référence à au droit privé, au droit des sociétés, une fonction opérationnelle, une fonction directionnelle, qui s'exerce selon des règles qui peuvent être propres au droit constitutionnel, encore que là aussi il y ait matière à beaucoup de comparaisons, mais je pense qu'il est sans doute plus fidèle de songer, de réfléchir en termes de pouvoir opérationnel ou pouvoir directionnel qu'en termes de pouvoir exécutif, auquel cas, alors, ce que Carlos disait tout à l'heure sur la présomption sous réserve de vérification de consentement prend absolument tout son sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, bien sûr, la part de l'amendement est importante, mais l'amendement n'est guère que, j'ai essayé de le quantifier et de soutenir cette thèse-là, il n'en demeure pas moins que la part de l'amendement ne représente guère autre chose que la conditionnalité mise au consentement, mais que globalement, la décision reste prise dans le sens voulu par celui qui en a été l'auteur et qui est totalement extérieur au Parlement. Et donc, il me semble que peut-être que l'une des pistes de réflexion qui peuvent être fécondes pourrait être de songer autour de peut-être d'autres adjectifs, ou alors de se résigner une fois pour toutes à considérer que exécutif est un très mauvais adjectif, mais à ce point authentifié qu'il vaut mieux s'intéresser à sa substance qu'à la mise en cause du terme.
Armel de Divert.
Merci de Denis Barranger. Parmi les choses, les problèmes de qualification auxquels nous nous heurtons sur ce que fait un gouvernement qui n'est pas subsumable ou rattachable aux notions classiques de législation ou de pure exécution ou d'administration. J'ai trouvé dans le texte de Michel Tropper une formulation de ce que je cherchais depuis un moment, sans avoir trouvé un terme qui me convenait. Il me semble qu'il dit dans son texte, donc, qui est tiré de son ouvrage, c'est page 96, que les fonctions, les compétences du directoire ou des ministres peuvent être, dans certains cas, être qualifiées de fonctions régulatrices, parce qu'elles, à la différence des fonctions exécutives, législatives, exécutives et judiciaires, elles ne consistent pas dans des types d'actes juridiques ou des types de prestations fournies par l'État, la société, etc. L'idée de fonction régulatrice nous permettrait, dans les compétences juridiques de l'organe gouvernemental dans une constitution donnée, mettons celle de la France ou de l'Allemagne ou de l'Italie, il y a des compétences du Premier ministre ou du gouvernement tout entier qui sont en effet des compétences de relation d'organe à organe, c'est-à-dire le droit de dissolution si c'est aux mains. Donc il y a toute une série de choses. Philippe Leveau le rangeait dans la prérogative. Alors oui, si on veut, mais je crois que dans la prérogative l'obtienne, c'est plutôt une action qui n'est pas prévue par la loi. Donc,
contre la loi.
Pour, bon. Donc en tout cas, il y a l'aspect ce qui contribue à faire fonctionner le système de gouvernement et donc des relations formalisées avec les autres organes et notamment avec les corps parlementaires. Donc ça, c'est une chose qu'on trouve dans toutes les constitutions libérales. Il y a, même aux États-Unis, évidemment, il n'y a que ça, on peut dire, des compétences juridiques, hein, puisque là, si on essaie de trouver les mots, qui sont rattachables à une fonction alors, systémique ou d'un terme intrasystémique dit Tropper, ou bien régulatrice, qui sont des compétences juridiques destinées à entretenir des relations formalisées avec les autres organes. Donc ça, ce serait un autre élément des débats, à côté de ce rôle de législateur, ou de co-législateur, ou de législateur présumé dans les régimes parlementaires, on aurait là déjà un deuxième groupe de fonctions qui, en effet, ne relèvent pas ni de l'exécutif, ni du législatif, ni encore moins du juridictionnel. Ensuite, je pense que je voulais aussi plutôt qu'on évoque Locke, parce qu'il me semble que outre la fonction fédérative, très bien, et la prérogative, c'est une réserve de choses qu'on peut attribuer à l'exécutif. Alors ensuite, il faut, le problème est d'effet déplacé, parce qu'il faut le définir plus positivement qu'il l'a fait, ou l'actualiser par rapport à l'époque à laquelle Locke écrivait. Mais donc, il y a quelque chose qui est indéfinissable. L'idée de pouvoir résiduel me semble tomber sous le sens. Parce que la réalité des régimes modernes est bien celle-là. C'est que le gouvernement, l'organe gouvernemental, est celui dont on peut retrancher certaines fonctions, mais il y a un certain point où on ne peut pas, on ne pourra jamais, je crois, le définir positivement. Alors que le Parlement, c'est moins vrai du Parlement, si ce n'est qu'il y a une fonction de discussion, de délibération qui est simple. C'est pas énormément une fonction, c'est une façon de faire, mais qui ne se traduit pas forcément par des actes. Dans le cadre du gouvernement, je pense qu'il y a en effet quelque chose qui ne peut être défini que négativement.
C'est très vrai ce que tu dis là, et de surcroît c'est très joli.
Alors arrête-toi là.
Attends, c'est la suite. Mais en même temps, c'est l'abdication des prétentions initiales du constitutionnalisme. C'est-à-dire, bien sûr que ce que tu dis est vrai, qu'il y a toujours quelque chose d'indicible dans le pouvoir exécutif et qu'il se découvre au fur et à mesure de l'action exécutive. En même temps, c'est précisément pour que ce ne soit pas ça qu'on l'a appelé exécutif au départ. Et la vérité de cet intitulé de pouvoir exécutif qui nous gêne tant, à mon avis, elle est dans l'idéologie de départ des fondateurs du constitutionnalisme. C'est qu'on voulait justement qu'il soit de la pure exécution de quelque chose, de quoi ça pouvait être la Constitution, ça pouvait être la loi, mais ça devait être en tout cas cette sorte de droit dont on estimait qu'il contrôlait l'action des gouvernements. Et de ce point de vue-là, je me demande si on n'a pas une petite tendance à un peu légitime dans les perspectives qui sont les nôtres, mais à se faciliter un peu la tâche. Parce qu'on a tous un petit peu tendance à dire il y a le pouvoir exécutif, c'est l'exécution des lois. Mais bien sûr, le gouvernement, c'est pas seulement le pouvoir exécutif, c'est plein d'autres choses. Et comme tu viens de le dire, et Philippe l'avait dit dans le cadre de la Constitution américaine, c'est plein d'autres choses qu'on découvre qu'au fur et à mesure, dont on ne peut pas faire une énumération au départ, de sorte que le terme de prérogative est assez chic, parce que c'est précisément, comme tu dis, une sphère résiduelle de compétences. Je me demande aussi si, dans l'idée même d'exécution des lois, il n'y a quand même pas beaucoup de choses qu'on passe sous silence avec ce dispositif-là. En ce sens, exécuter les lois, c'est pas seulement du tout, mécaniquement, être un paragraphène automate qui met en œuvre des choses qui seraient dites d'avance dans du droit surplombant. C'est pas du tout ça, exécuter les lois, et au fond, un grand juriste comme Henriot l'avait très bien vu. C'est-à-dire que l'exécution de la loi, ça n'est absolument pas un pouvoir mécanique dans lequel notre exécutif aurait les mains liées, là où par ailleurs il les délie pour agir très librement quand il est fédératif ou quand il est autre chose. Non, l'exécution de la loi, c'est des possibilités d'action, c'est de la discrétionnalité sur un mode de grande liberté. C'est pour ça que moi j'admire assez le texte de Jelinek, notamment, parce que le texte de Jelinek, quand il parle de la zone l'activité libre comme activité première, c'est très bien dit. Et ce que je trouve très remarquable, c'est que dans l'esprit de Jelinek, tout de suite, le dogmaticien fait suite à l'auteur politique pour dire cette libre activité, elle peut être saisie par le droit. Et c'est là qu'au fond, le spécialiste de droit administratif pourrait venir ici, et d'ailleurs il serait bienvenu, et il nous dirait... Et il nous dirait, le droit administratif, c'est ça très bien. Et il y a des mécanismes de contrôle, il y a des manières qu'a le droit administratif de bien comprendre que la discrétionnalité se saisit par du contrôle juridictionnel de l'action administrative. C'est le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, par exemple, c'est des choses souples, c'est une réduction dans le niveau du contrôle qui est approprié à la flexibilité, à la plasticité du pouvoir exécutif, qui lui laisse une grande marge de manœuvre. Et le juriste anglais, qui viendrait à sa suite par l'Eurostar, nous dirait que la prérogative, c'est exactement pareil, et qu'au XXe siècle, il y a eu un développement tout à fait large du contrôle juridictionnel de la prérogative, de sorte qu'elle n'est pas du tout une sphère d'irresponsabilité sous le regard du contentieux administratif. Donc au fond, ne nous facilitons pas totalement la tâche en restant trop constitutionnalistes. le pouvoir exécutif comme pouvoir d'exécution des lois est également quelque chose qui peut être contrôlé. Et c'est là que l'État de droit, éventuellement, l'État de droit a pu reprendre ses, si je puis dire, ses droits, a pu regagner, regagner du terrain. Pour le dire autrement, quand Orlu nous dit qu'il y a une fâcheuse habitude de définir le pouvoir exécutif uniquement par la mission d'assurer l'exécution des lois, or il y a deux choses dans l'exécutif, il y a assurer la marche de l'administration, un, et deux, assurer l'exécution des lois, moi je serais tenté de dire que les deux se fondent et qu'il n'y a pas de distinction si nette que ça. Et qui suis-je pour proposer une interprétation de la RARIES qui n'est pas celle de Orlu, mais moi j'en propose une autre, c'est que pour exécuter les lois au sens de l'article 3 de la Constitution de 1875, il fallait violer la loi de 1905, l'article 65 de la loi de 1905, de sorte que encore dans la violation de l'article 65 de la loi de 1905 et dans le fait de lui supplanter l'autorité d'un décret, le président était dans l'exercice de sa compétence d'exécution des lois. Après cette interruption tout à fait scandaleuse, je donne la parole d'abord... Tout à fait de l'ordre de la prérogative. Je donne la parole d'abord à Ranelli.
Non, c'est une remarque de mot latéral à propos de Montesquieu. Quand on parle du pouvoir nul des juges, ça s'applique à sa description de la Constitution d'Angleterre. Il ne dit jamais sur la France. Et je suis toujours un peu sceptique quand on dit que le... En gros, on peut comprendre sa description du gouvernement français comme une forme de plaidoyer pour le Parlement, parce que ce qu'il défend chez le Parlement, ce n'est pas du tout leurs attributs judiciaires qui existent. C'est leur rôle de dépôt des lois. C'est-à-dire, pour lui, le Parlement n'a d'importance que comme un élément modérateur dans un dispositif absolu. Et comme élément modérateur du dispositif absolu, pour Montesquieu, ce n'est pas le Parlement qui est le plus important. C'est les corps intermédiaires. Et donc, je dirais, tout l'aspect du pouvoir judiciaire dans sa description du gouvernement monarchique n'a quasiment pas d'existence. Il répète deux fois dans sa description du gouvernement d'Angleterre, pas quand il parle du gouvernement monarchique.
En même temps, le pouvoir judiciaire chez Montesquieu est un corps intermédiaire. Une ambiguïté constitutive entre sa portée sociologique et son pouvoir de juger, me semble-t-il. Sinon, pour rebondir sur ce qui a été dit par Denis et par Armel, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, notamment
avec plein de...
Non, c'est spécifiquement sur Armel là, que je voulais juste signaler.
On peut s'arrêter là, c'est bien.
Non, parce que Armel a un talent que je ne lui connaissais pas. C'est, à ma connaissance, le seul professeur de droit qui est capable de faire des notes de bas de page pendant une intervention orale. Et ça, je dois dire que je suis quand même vraiment très impressionné. Mais bref, pour essayer de saisir la consistance de ce qu'on n'arrive pas à cerner à travers la notion d'exécutif, je me demande s'il ne faut pas distinguer deux choses. S'il ne faut pas distinguer des pouvoirs au sens de moyens de pression. Alors là, on n'est pas dans telle ou telle fonction. Hein. Moyen de pression sur le Parlement, moyen de pression... Si on fait ça, je parlais de la responsabilité, de la dissolution qui ne sont pas réductibles aux trois pouvoirs, ce n'est pas seulement un problème qui va toucher à l'organe gouvernemental lui-même. Ça vaut aussi pour le Parlement. Olivier disait on réduit la fonction à l'acte et c'est tout à fait le problème. Un autre exemple, un pouvoir nucléaire traditionnel des parlements, c'est de refuser de verser de l'argent, de refuser le vote des impôts. Et on dit toujours c'est législatif. Mais ce n'est pas législatif. Le gouvernement, enfin ce qui est législatif, évidemment, c'est de décider du contenu de la loi fiscale. Mais ce n'est pas ça qui est un moyen de pression du Parlement. Le gouvernement, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas de savoir si c'est les CSP+, qui vont payer 45%. Enfin, ça intéresse évidemment. Mais ce sur quoi il est prisonnier du Parlement, c'est sur la question, c'est moi qui te donne le blé, point barre, quel que soit le contenu législatif de ce versement d'argent. Et donc là aussi, il me semble qu'on rentre pas dans la trilogie des fonctions. Mais donc il y a ces moyens de pression là, essayer de comprendre. Est-ce qu'on peut essayer de les comprendre dans des termes qui soient sinon juridique, du moins parajuridique. Et puis après, il y a la question des fonctions. À quoi ça sert tout ça? Alors, fonction régulatrice, tu disais, Armel.
Reprenant la formule de
Michel Tropper. Oui, mais le problème, c'est que les relations interorganes, enfin, ce n'est pas un monopole du gouvernement. Des
des relations interorganes.
Non, chaque organe a des compétences relationnelles avec les autres.
D'accord. Ouais, alors dans ça-là, ce ne serait pas spécifique au gouvernement. Alors après, moi, il me semble, moi, j'ai trouvé aussi qu'il y a l'idée que c'était vraiment ce qu'il y avait de plus éclairant sur quelque chose de très mystérieux. Linek, lui, il adopte un point de vue donc un peu téléologique, quoi, en fonction de l'objectif. Hein. Il dit l'activité libre de l'État qui va lui donner sa direction et son but. Il va même jusqu'à parler de mouvement historique. Le gouvernement fait des choix fondamentaux, il se fixe des objectifs et finalement le reste suit, quoi, parce qu'il a cette influence qui fait que son programme, il pourra l'appliquer. Il y a l'idée d'objectif et puis il y a aussi l'idée d'initiative. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que moi, j'en étais resté très bêtement à la vision formelle de l'initiative des lois, bon, comme d'un élément de mécanique. Mais ça va bien au-delà, hein, et Jelinek explique très bien comment finalement le gouvernement est l'initiateur de l'ensemble de l'action publique, ce que disait déjà Necker. Il a fixé un cap. Et à cet égard, la façon dont il le décrit, moi j'ai trouvé ça très intéressant, de même que quand Barthélémy dit le gouvernement prend des actes primaires, il est au début de quelque chose, il est vraiment au début de quelque chose, il est le premier à dire ou à faire des choses. Ça me faisait penser dans un autre ordre d'idées, dans le domaine de la philosophie, à la façon dont Hannah Arendt critiquait la conception kantienne de la liberté. Hannah Arendt dit la liberté selon Kant, c'est l'autonomie, c'est se fixer sa propre loi. Mais non, la liberté, c'est pas ça. La liberté, c'est... Elle a une conception créatrice de la liberté. C'est-à-dire de poser un acte nouveau, quelque chose de complètement inconditionné, qui va modifier le réel, qui va avoir une influence, en quelque sorte, une espèce d'action qu'on pourrait presque dire originaire. Et je me demande, mais tout ça est à gazeux comme réflexion, je me demande si on pourrait pas, de ce point de vue-là, saisir quelque chose de la fonction gouvernementale et parler de quelque chose qui pourrait être une sorte de pouvoir gouvernemental originaire, sinon en droit, du moins en fait, hein, qui est celui d'initier de manière inconditionnée l'action de l'État. Et à ce moment-là, pardon, je termine, j'étais trop long, quand Jelinek parle du gouvernement comme activité dirigeante, ce serait peut-être, non pas au sens pouvoir hiérarchique sur les autres organes, parce que ça, le gouvernement l'a pas, hein, mais action dirigeante au sens où il donne une direction.
Oui, mais ça dérive évidemment de la théorie allemande de la monarchie, c'est-à-dire que Jelinek dit ce qui est au début de l'État, si on peut dire, c'est le prince, et donc la volonté du prince est ce qui constitue ensuite le droit. Et il parle ensuite d'organes primaires ou d'organes immédiats selon les cas, et effectivement, le prince est le premier organe primaire, le peuple étant le second à travers l'élection d'assemblée, lorsque l'époque est venue que l'on élit des assemblées. Mais auparavant, quand il n'y en avait pas, il y avait un seul organe primaire qui reste l'organe primaire principal jusqu'en 1918, donc en somme dans le droit allemand positif du 19e siècle. Et évidemment, de cette théorie qui est plus explicitée encore par Laban, vient naturellement l'observation que vous avez relevée de façon plus abstraite.
Cela étant, Oriou dit exactement la même chose du pouvoir exécutif dans un contexte qui n'est pas celui du principe de marché.
Non, je disais une explication.
Oui, bien sûr, tout à fait, je vais abstraire du contexte.
Monsieur Hamon ?
Oui, moi, en tant que constitutionnaliste, il y a un arrêt du Conseil d'État qui m'avait énormément frappé pour caractériser le pouvoir gouvernemental, c'est l'arrêt de Labonne, qui est un arrêt du début du siècle, où l'enjeu, c'était de savoir si un décret du président de la République fixant le code de la route était valable. Alors, à partir de l'idée d'exécution, on était amené inévitablement à dire qu'il était illégal, parce que ça n'était l'application d'aucune loi. Et c'était quand même un texte assez contraignant qui instituait l'obligation du permis de conduire, notamment. Et le Conseil d'État, je ne me rappelle pas le terme exact de l'arrêt, mais il me semble que pour valider ce décret, il ne se réfère pas du tout à la fonction d'exécution des lois. Il dit qu'il y a une fonction du gouvernement qui est une fonction un peu opérationnelle, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une fonction de maintien de l'ordre.
Et c'est contemporain de plusieurs décisions de la Cour de cassation belge, de la Cour de cassation italienne, qui reconnaissent donc l'existence de ce que nous appellerions un pouvoir réglementaire autonome, avec toutes les précautions d'usage, en matière de police administrative. Ça arrive vraiment au même moment dans plusieurs pays, et pour la résolution des mêmes problèmes, des mêmes types de nécessités.
Il y a un caractère, il y a un marqueur du pouvoir exécutif dans la doctrine administrative et dans les jurisprudences, c'est l'inhérence, les pouvoirs inhérents, voilà. La sphère de pouvoir inhérent, que ce soit le pouvoir de police générale, que ce soit le pouvoir d'organisation du service, c'est très typiquement ce qu'on associerait nous à l'exécutif. Et c'est très 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 mal vu de la doctrine juridique en général qui déteste le pouvoir inhérent. On aime bien les pouvoirs qui ont été expressément donnés par du droit écrit. Et le caractère irréductible du pouvoir inhérent, c'est un peu la même problématique que celle qu'on a rencontrée à d'autres endroits, c'est que le droit, la légalité ou la constitutionnalité du pouvoir exécutif ne ressortit pas aux mêmes modalités d'expression formelle que le reste du droit. C'est-à-dire, il y a des manières de dire le pouvoir exécutif très très différentes qui lui sont assez spécifiques. L'inhérence, c'est assez spécifique. Tristan Poutier, vous voulez la parole?
Oui, je voulais juste abonder dans le sens de ce que disait le professeur Pimentel, puisque dans le cas d'Oriou, il met les deux sources philosophiques de sa pensée qu'il a revendiquées explicitement. C'est dans un cas de néotomisme et dans l'autre la philosophie de Bergson, c'est-à-dire deux pensées qui dénonçaient de façon virulente dans le paradigme mécaniste classique du XVIIIe siècle l'incapacité à penser la nouveauté dans le temps. C'est-à-dire, dans un premier paradigme de type mécaniste, on a la volonté générale de Rousseau, c'est-à-dire tout devient un syllogisme géant et tout devient subsomption de cas particuliers sous une règle prédéterminée. Dans le cas de l'équilibre des pouvoirs, on a plus un atomisme où tout est prédéterminé également. Et ce que disent les néotomistes et ce que dit Bergson, c'est qu'il n'y a la place pour aucune nouveauté dans tout ça. Et effectivement, à partir du moment où on se met à penser la nouveauté, et même à penser la nouveauté à l'origine de la règle générale, ou dans l'application de la règle générale, on se dit que l'origine de cette nouveauté-là, elle ne peut relever que du tact de la conscience individuelle. Et ça relève de l'imagination, de la créativité, toute chose qu'on associe beaucoup plus facilement au pouvoir gouvernemental qu'au pouvoir législatif, qu'on ne voit raisonner que par règle générale.
Chez Arendt, c'est à deux endroits, c'est dans le pouvoir exécutif et c'est bien évidemment dans le pouvoir constituant, dans le pouvoir de fondation.
Juste une remarque, parce que ça rejoint plusieurs observations qui ont été faites, notamment celle que tu as faite, Denis, à propos de la remarque sur le pouvoir résiduel de Armel, qui est effectivement une sorte d'atteinte à l'idée constitutionnelle, c'est-à-dire une idée une sorte de réserve de souveraineté qui vient briser l'idée quand même assez formelle de la Constitution sur laquelle les pouvoirs sont habilités par la Constitution. Et on s'aperçoit avec cette idée de pouvoir résiduel que si on acceptait complètement cette idée, on aurait du mal à intégrer cette idée dans le constitutionnalisme. Il reste néanmoins que quand tu as répondu, tu as soulevé un point qui a été repris par plusieurs personnes, c'est que finalement, ici, le pouvoir gouvernemental ou la fonction gouvernementale, elle est saisie non plus par le droit constitutionnel, mais par le droit administratif. Donc on a aussi ici un défi, enfin une contrainte à observer, c'est que si on raisonne en strict constitutionnaliste, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à saisir l'intégralité de la fonction exécutive et que le cloisonnement de plus en plus rigide entre le droit constitutionnel et le droit administratif nous empêche de voir des choses évidentes qui sont que la fonction exécutive relève en partie du droit administratif dès lors que le contrôle juridictionnel est le seul moyen efficace de pouvoir saisir l'action. Guy Carson n'est pas d'accord.
Non, juste pour défendre d'un mot le droit constitutionnel, c'est-à-dire que l'article 20 définit la fonction gouvernementale incomparablement mieux que la totalité du recueil Le Monde, qui n'en est qu'une sous-partie. Mais l'article 20 est limpide. C'est pour ça que je comprenais le souci tout à l'heure de Denis sur une définition purement résiduelle, mais je ne le partage pas. Une fois encore, des définitions du type de celle de l'article 20 en font tout sauf que quelque chose de résiduel. Il détermine et conduit la politique de la nation. Alors on va pouvoir disserter pendant des décennies sur la signification du terme, enfin de chacun des termes, et en particulier de politique de la nation. N'empêche que c'est bien un pouvoir actif qui est ainsi déterminé. Je persiste à attacher de l'importance à la notion de direction ou d'opération. Je ne sais pas exactement ce qu'est le bon qualificatif, mais finalement, c'est, me semble-t-il, quand même à cela que ça se ramène. Et le droit administratif, de ce point de vue-là, présente évidemment bien des vertus. Mais il comble les trous au mieux de ce qu'il peut faire, y compris en allant chercher l'inhérence. Mais finalement, l'essentiel est, me semble-t-il, dit avec une assez belle économie de mots dans l'article 20.
Que faut-il penser du fait qu'une commission prestigieuse est composée tout aussi prestigieusement et remarquer que ce n'était pas la réalité et qu'il fallait en changer la rédaction?
J'étais minoritaire sur ce sujet.
C'était le titulaire, c'était pas la...
Oui, c'est le titulaire, c'est pas la fonction.
Non, l'article 20 n'était pas mis en cause parce que quelqu'un avait suggéré...
C'était pas déterminé.
Quelqu'un avait suggéré qu'effectivement on coupe l'article 20 pour dire que c'est le président de la République qui détermine et le gouvernement qui conduit. Mais là, heureusement, il n'y a pas eu besoin de très longtemps pour que le quelqu'un en question se retrouve terriblement minoritaire.
On verra pas qui c'est. De nombreux mots, peut-être que Carlos peut avoir un petit mot, puis je te donne la parole. Ce sera juste le montage.
Juste un petit mot sur ces histoires d'inhérence, là, et sur ce que tu disais, voilà, avec l'exécutif, on doit toujours considérer les choses de manière un peu particulière, ça ne marche pas comme pour les autres, etc. Dans le cas de l'arrêt RIS, quand même, je pense que ça va bien au-delà de ça, parce que le Conseil d'État, il est quand même extraordinaire. Lui, il a travaillé sur un texte qui n'est pas du tout celui de 58, évidemment, qui est beaucoup plus minimaliste, et il va quand même aller expliquer que, puisque la Constitution prévoit que le président a le pouvoir d'exécuter la loi, eh ben ça veut dire qu'il a le pouvoir de ne pas l'exécuter. Enfin, quand même pas. Je veux dire, c'est bon. Je sais pas si c'est de l'inhérence. Moi, je crois tout simplement que c'est une expression magnifique du pouvoir constituant du Conseil d'État. Voilà. Bon. En tout cas, ça va au-delà de l'inhérence.
J'employais pas l'inhérence au sujet de l'arrêt RIS. Ensuite, l'arrêt RIS, il y a une chose qui est flagrante, c'est la rationalité propre du Conseil d'État qui consiste à dire il y a cinq critères et ensuite je fais ce qui me plaît. Il y a des règles et ensuite je fais ce qui me plaît.
Je rejette d'abord et je vais décider.
Mais cela étant, voilà, on peut en rire ou on peut le dénoncer. Il demeure que ça ne se produit pas à un seul exemplaire. L'arrêt RIS, Michel Hamon citait la bonne, on peut en citer d'autres. Orioux en cite d'autres tout à fait intéressants. Ça se produit à N exemplaires. De sorte que ça dit quelque chose de significatif sur justement ce qui est notre objet, qui est le gouvernement.
Très content que Guy ait évoqué, je voulais le faire, l'article 20, puisque ça me paraissait une réponse où le droit constitutionnel fournit des clauses générales. Dans la constitution allemande de 1949, on retrouve la formule déjà sous Weimar, le chancelier détermine les lignes conductrices de la politique. Alors, il y a des débats pour savoir si c'est purement interne au gouvernement ou si ça a une fonction un petit peu équivalente à l'article 20, on peut en discuter. Mais il y a dans les constitutions des clauses générales qui confirment que le droit écrit essaye de saisir, mais il ne peut faire qu'à part, au fond, il habilite. Et d'ailleurs, si la meilleure définition des constitutions qu'on peut faire, c'est que c'est un ensemble d'habilitations un peu organisées. Alors, je voulais intervenir parce que j'avais trouvé que j'avais été sèchement claqué malgré ces critiques avaient été enveloppées de pleurs de la part de mes complices. En l'occurrence, je ne pense pas qu'en sortant, en brandissant la prérogative de Locke, je n'ai fait que c'était une non-réponse ou que c'était une solution trop simple. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est quand le Conseil d'État évoque les pouvoirs de police générale du président de la République dans l'arrêt Labonne, ou bien qu'on parle de pouvoir inhérent, eh bien c'est exactement la même chose. C'est de mettre sous une catégorie générale et plutôt habilitatrice, non déterminée à l'avance, d'habiliter quelqu'un à faire un certain nombre de choses qu'on ne peut pas lister à l'avance et qu'on ne peut pas subsumer sous une fonction précise et déterminée. Donc je ne crois pas que, bien sûr que l'horizon du constitutionnalisme est peut-être de tracer la clôture des pouvoirs des institutions, mais en réalité, on s'aperçoit en matière constitutionnelle que, évidemment, il ne peut le faire qu'au prix d'une habilitation très générale à travers différentes formules qu'on détecte dans les textes constitutionnels et de choses opérationnelles ou opératoires que le juge administratif valide ou réalise ou invente littéralement pour couvrir les agissements pratiques d'un gouvernement. J'ajoute un dernier point sur la frontière droit administratif, droit constitutionnel. Je pense qu'il ne faut pas trop se frapper là-dessus. Le droit administratif est un droit beaucoup plus technicien, parce qu'on pourrait dire qu'il est plus aux prises avec l'immédiat, mais le droit administratif est donc plus que le droit constitutionnel. Mais au fond, les administrativistes et le juge administratif s'en sort que quand il se réfère, il a besoin de se référer à des notions, on va dire, de droit public général, de droit constitutionnel général. Donc en réalité, je crois que c'est un faux débat que de se dire il y a un problème de frontières, il y a un problème de regard. Je pense qu'il y a une complémentarité évidente, sachant que le droit administratif est forcément un petit peu plus au fond du terrain.
Le dialogue des juges doit correspondre au dialogue des droits et des doctrines. Et je me permets de te dire à ce sujet-là, je peux tout à fait rassurer. Dans d'autres universités peut-être, mais à Paris 2, on ne claque pas l'école. Alors nous avons maintenant une action que je soumets à votre vote. Il nous reste... Après 20h, nous pouvons rester et parler, mais c'est jusqu'à demain matin. Donc je voudrais vraiment que ça soit très vite de la part de tout le monde, sinon nous avons deux minutes pour quelques interventions. J'aimerais bien que la salle parle, je vois Quentin Ecron qui voudrait parler.
Oui, l'ensemble de la discussion me fait penser à une chose, c'est que la difficulté de définir la notion de gouvernement est peut-être aussi liée à un présupposé qui est celui de la responsabilité politique. Au fond, quelqu'un citait tout à l'heure le fédéraliste, il dit une république c'est un régime dans lequel tous les organes sont responsables. Au fond, c'est ce qui domine, je crois, notre réflexion. C'est pour ça qu'on a du mal à dire ce que c'est que le gouvernement, parce qu'au fond, ce qui nous domine, c'est un principe d'individualisation du pouvoir. Il faut que quelqu'un soit responsable, il faut que le pouvoir soit lié à une responsabilité. Et donc, une fois qu'on a dit qui est responsable, qui assume ce pouvoir, eh bien, on rentre dans une zone un peu floue, où il y a une certaine confusion entre gouvernement, pouvoir exécutif, on a une certaine difficulté à définir la notion de gouvernement. Je pense notamment aux pages si frappantes, si étonnantes de Karel Malberg dans la contribution, où il a une difficulté considérable à nous expliquer en quoi la fonction gouvernementale est distincte de la fonction juridictionnelle. En quoi ça se distingue ? Il n'y arrive pas. Au fond, il dit la seule manière de distinguer la fonction gouvernementale de la fonction juridictionnelle, c'est sur un critère purement formel d'autorité. C'est tout, et n'allons pas au-delà. Donc, pourquoi finalement Karel Malberg a tiré cette conclusion ? Parce que ce qui domine chez lui, c'est la question de la souveraineté, la question de qui décide, au fond. Et donc, chez lui, au fond, le problème de la fonction gouvernementale est vu de manière insatisfaisante, parce qu'en amont, au fond, ce qui se demande tout d'abord, c'est qui décide et qui sera responsable. Ce qui fait que nous ne sommes pas choqués par l'existence d'un pouvoir discrétionnaire de l'administration, parce que nous entendons bien qu'il est inévitable, et par ailleurs, nous avons la satisfaction de constater qu'il est tout de même soumis à un contrôle juridictionnel. Mais nous sommes choqués par la possibilité d'un pouvoir qui serait exercé sans responsabilité. Parce qu'au fond, là, c'est à un niveau supérieur, et parce qu'au fond, nous sommes républicains, et parce que nous considérons qu'il faut que le pouvoir soit imputé à quelqu'un. Et il me semble que si Oriou est sensible à cette dimension gouvernementale, c'est précisément parce que chez Oriou, il est question de la souveraineté, mais dans des termes tout de même assez hétérodoxes et qui au fond sont assez différents de ceux qu'utilise Malberg dans la contribution.
Merci beaucoup. On a le temps pour une dernière intervention de quelqu'un qui n'aurait peut-être pas parlé, qui aurait une urgence particulière exprimer. Bien, si tel n'est pas le cas, si tout le monde est très apaisé, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée.